oui, c'est Gilles Forêt. Il y a plusieurs nouveaux, hein? C'était pour m'introduire quand même, parce qu'il y a des gens qui sont ici, qui nous visitent, il y en a des nouveaux. Alors, c'est toujours une joie de partager la parole. Alors, quel que c'est qui va le... Vous le mettre dessus, hein? C'est tout le temps une joie de partager la parole, comme cela, le dimanche. Je suis le père d'Alexandre, je suis le père aussi de deux autres enfants qui sont à l'église ici. Je suis ici depuis plusieurs années. Heureusement, il y en a quelques-uns qui sont plus vieux que moi, alors moi, je suis pas le patriarche. On peut mettre ça sur les épaules de M. Alexandrien, qui est le fondateur et qui aujourd'hui, je pense, est le plus vieux des membres de l'église. Alors, on l'appelle le patriarche. Maintenant, aujourd'hui, c'est vraiment un sujet particulier. Je vous dirais, le dernier chant qu'on a chanté, ça a été la requête du Seigneur Jésus-Christ quand il a fait une prière dans Jean chapitre 17. Il l'a pas dit comme cela, mais certainement, une de ses requêtes, c'était que son Père nous conduise. Et on a besoin que son Père nous conduise. Juste une mise à jour sur le projet de construction, peut-être avant qu'on aborde le sujet de Jean 17. C'est pas mal, je dirais, là, ce qui prend beaucoup de mon temps, mais beaucoup de temps de certains de mes frères. Dieu a donné la santé à des gens qui sont retraités et le désir de mettre du temps à la construction. Et aussi, il y a eu quelques jeunes qui sont venus nous aider. Alors, on se réjouit de cela. On est un peu en retard. Ce dimanche passé, je vous avais dit que la construction était pour avancer de beaucoup cette semaine parce que les charpentiers étaient censés être là. Ils étaient là lundi, ils ont fait trois murs, ils étaient censés revenir mercredi, mais on les a pas revus. Par contre, ils nous ont dit que à partir de lundi, ils seraient là et qu'il y aurait même deux équipes à la fin de la semaine. Donc, l'objectif, c'est certainement de mettre, de mettre les fermes, de mettre le contreplaqué sur les fermes et peu de temps après, eh bien, de faire venir le gars de toiture pour que sceller la toiture. Alors, mettez ça dans les mains de Dieu. Il y a, c'est pas notre projet. Il faut que ce soit le projet de Dieu. Et nous, on est des collaborateurs poursuivant ce qu'on croit être son plan, sa volonté pour l'Église ici. La deuxième requête que j'aimerais que vous ayez à cœur, c'est que l'Église, les frères, les sœurs qui sont en contact avec les entrepreneurs, et pour la plupart, ils ne sont pas des croyants, ce sont des gens locaux ici, mais on veut avoir un bon témoignage à leur égard et on veut un peu susciter leur questionnement face à qu'est-ce qui fait notre joie, qu'est-ce qui fait notre espérance. Troisièmement, prier que les entrepreneurs gardent leur parole. Je disais, je partageais un peu aux gens cette semaine que c'est bien connu que dans le domaine de la construction, que ce soit sur les chemins, que ce soit dans le commercial, dans le domestique, les gens font leur vie à prendre des contrats. Ils ont une crainte de pas avoir assez de contrats. Alors, ils en prennent plus qu'ils peuvent faire. Et là, eh bien, pour garder tout le monde content, c'est un petit peu comme cette personne qui garde des assiettes allées, brasse le bâton ici, l'assiette part, brasse l'autre, il y en a peut-être 5-6 assiettes. Mais là, les premières assiettes commencent à ralentir et reviennent. Et les entrepreneurs de construction souvent font la même chose avec les contrats. On donnait un peu de temps ici et là, parsemé, juste assez pour que le client dise « OK, mais on va continuer avec l'entrepreneur. » Mais étire cela. Alors, une requête, que ça soit pas comme cela pour nous. Alors, fin de la construction, on devrait... Jean 17. Imaginez une situation comme celle-ci. Il y a un jeune homme, il est père d'une jeune famille. Il y en a plusieurs ici dans l'Assemblée. et il doit partir. Et son départ, eh bien, c'est pour accomplir quelque chose qui est assez dangereux même, et il n'est pas certain de revenir. Ça se pourrait qu'il parte et qu'il ne revienne pas. Alors, avant de partir, il a certainement des préoccupations pour sa petite famille, pour sa jeune épouse. Et il décide d'aller voir quelqu'un pour lui demander de prendre soin de sa petite famille pendant qu'il est parti. Certainement, il n'ira pas voir n'importe qui, n'est-ce pas? Il va aller voir quelqu'un qu'il connaît bien. Quelqu'un en qui il a confiance. Quelqu'un en qui il sait que c'est un homme honnête, intègre, responsable. Quelqu'un qui a son bien à cœur, qui n'hésitera pas même à se sacrifier pour sa petite famille, si le besoin est là. Eh bien, il va voir cette personne-là, et là, qu'est-ce qu'il va demander à cette personne-là pour prendre soin? Quelles vont être ses préoccupations? Est-ce que ça va être de s'assurer que ses enfants ont tous des vêtements Under Armour? Hein? Chez mes petits-enfants, c'est pas mal important ça, là, pour certains, là, tu sais. Du linge designer. Ou bien, va-t-il se préoccuper que ses enfants puissent avoir un iPod? Ils vieillissent un iPad? Ils vieillissent un iPhone? Est-ce que ça va être vraiment sa préoccupation? Il va dire à cet homme-là, si tu vois que mon jeune arrive à 6-7 ans, il faut absolument qu'il ait un iPod. Est-ce que ça va être sa préoccupation? Est-ce que il va lui dire, écoute, dans la vie, là, c'est important que mes enfants soient acceptés par tous. Il faut qu'ils fassent partie de la gang. Même s'il y a des compromis, là, c'est pas grave. Il faut qu'ils fassent partie de la gang. Sans ça, il va être rejeté. Est-ce que ça va être sa préoccupation principale, vous pensez? Je ne crois pas. Est-ce que il va lui dire, écoute, mon jeune, il va avoir des dons, des talents. Il va être passionné pour certaines choses. Et je te demanderai de tout faire pour qu'il poursuive ses passions. Je pense qu'il va lui donner un encadrement sur quelles passions sont bien de poursuivre et celles qui ne le sont pas. Alors, je ne crois pas que ce soit des choses que le jeune homme, le jeune père, demanderait à cet homme, à cette personne de confiance. Plutôt, je crois qu'il lui dirait de considérer les choses qui sont importantes pour lui-même. Donc, dans un sens, aller voir quelqu'un et lui demander de prendre soin de ma famille d'une certaine façon, dévoile beaucoup de ce qui est important pour moi, n'est-ce pas? Si vraiment la technologie, les iPods, les iPhones sont importants, eh bien, ça va faire partie de ce que je vais demander. Donc, dans un sens, je vais mentionner certaines affaires, mais ça devrait vous amener à réfléchir. Chacun de vous, si vous êtes père, mère, ou même si vous êtes des jeunes ados, qu'est-ce que vous considéreriez important pour demander comme requête? Faites une liste mentalement ce que ça serait. Et de cela, certainement, comme le dernier chant qu'on a vu, Seigneur, sonde-moi. Est-ce que je considère important et vraiment ce qui devrait être important, n'est-ce pas? Pour moi, certaines des choses, ça serait, fais tout ce que tu peux pour que ces jeunes enfants deviennent une personne responsable, intègre, fidèle à ses engagements. cherche à lui enseigner à bien discerner ce qui est bien de ce qui est mal et de s'éloigner de ce qui est mal. Enseigne, assure-toi qu'à mesure qu'il grandit, que mes enfants aiment à faire le bien et ne pas faire le mal. Enseigne-leur à être généreux, de prendre soin de ceux qui sont en besoin, soit avec ton argent, ton temps, tes conseils, mais sois généreux, pas avare, pas par toi-même, mais généreux envers les autres. Et certainement, je dirais, leur décision de suivre Jésus-Christ ne t'appartient pas, mais sois un modèle, enseigne-les comme la parole nous demande des enseignants. Eh bien, c'est une situation un peu semblable à laquelle Jésus fait face dans Jean 17. Dans les chapitres, chapitre 1 jusqu'à la fin du chapitre 12, on voit Jésus dans un ministère public et la tension avec les dirigeants juifs grandit. Et on le voit. Mais à partir du chapitre 13, un peu comme M. Alexenien a prêché dimanche passé, il prend un temps à part avec ses disciples et veut les enseigner. Chapitre 13, chapitre 14, 15, 16, le Seigneur va donner un discours d'adieu. Il s'adresse à ses apôtres. Il va partager ce qu'il considère être bien important. Et au chapitre 17, il se tourne vers son Père. Il va faire une prière à Dieu, son Père, pour le bien des personnes avec qui il a passé presque 3 ans. Alors, un peu comme ce jeune père, il va mentionner dans sa prière ce que le Seigneur lui-même considère être primordial. On va voir ça ensemble. On va voir ces éléments-là. C'est pas la seule fois que le Seigneur qu'on voit que Jésus prie. À bien des endroits dans les évangiles, les évangélistes vont dire Jésus alla à l'écart et pria. À plusieurs endroits. Il n'y a, je vous dirais que quelques endroits, et je dirais peut-être 3-4, où on a le contenu de la prière. Pourquoi est-ce que Jésus prie? Quand on voit dans les évangiles, Jésus se met à l'écart et pria, c'est quoi qu'il dit? Bien, la plupart du temps, on ne sait pas. Il entretenait une relation avec son Père, mais on ne sait pas quel était le contenu de sa prière. Pour certains, on le sait, certainement, lorsqu'il enseigne à ses disciples comment prier, bien on a le contenu de la prière. Il veut montrer aux disciples quel sujet il devrait traiter quand il prie. Alors, c'est un enseignement qui nous appartient aujourd'hui. Si on veut savoir comment prier, eh bien, lisons comment le Seigneur nous a enseigné à prier dans Matthieu 6 et dans Luc chapitre 11. Ensuite, il y a la prière au jardin de Gethsémani. Dans Matthieu, chapitre 26, Marc 14, Luc 22, Jean, même 12. Et puisqu'on est dans Jean 17, dans Jean 12, il a une prière semblable à celle qu'il a eue dans le jardin de Gethsémani, mais il n'est pas dans le jardin de Gethsémani. Mais quand même, il va dire dans Jean 12, 27 à 28, maintenant, mon âme est troublée. Et que dirais-je, Père? Délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, révèle la gloire de ton nom. Alors, si vous allez dans Matthieu, Marc, Luc, c'est plus étendu. Et on voit comment Jésus est accablé. On dit même qu'il a eu des gouttes de sang qui sont sorties, des larmes de sang, sachant comment difficile la passion était pour être. Et il dit, « Père, si tu peux faire que j'évite ça, vas-y. » Par contre, ce qui était plus important pour lui, c'était pas d'éviter cela, mais c'était de suivre, de faire la volonté de son Père et d'aller jusqu'à la mort, à la croix. Mais on voit quand même le contenu de sa prière. Il y a une autre prière lorsque Jésus est à la croix. Elle est courte, celle-là. Mais quand même, on voit le contenu de sa prière. Il dit, « Père, pourquoi m'as-tu abandonné? » Dans Jean chapitre 11, quand il est devant la tombe de Lazare, il va prier aussi. Et dans cette prière-là, il exprime pourquoi il prie à haute voix. Parce qu'il y a bien des fois que Jésus prie et qu'on ne sait pas à haute voix. Il y a bien des fois que moi je prie et que ce n'est pas à haute voix. Mais dans Jean 11, il dit, je prie à haute voix. Pas parce que moi j'en ai besoin, mais parce que je veux que ceux qui m'entendent sachent que toi, tu m'as envoyé. Je ne suis pas ici de mon propre chef. Je ne suis pas un gourou qui a gagné popularité. Je ne suis pas ici pour accomplir ce que moi je veux accomplir. Je veux qu'ils sachent que si je suis ici, c'est parce que toi, tu m'as envoyé. Pour accomplir ta mission. Et à d'autres endroits, il dit, je le fais volontairement. Je ne suis pas contraint de le faire. Et je crois que c'est la même chose dans Jean 17. Le Seigneur n'était pas obligé de prier à haute voix. Il aurait pu le faire discrètement, mais il veut que ses apôtres l'entendent. Ils s'en rappellent. Et non seulement ça, qu'ils l'écrivent, que Jean, l'évangéliste, l'écrive dans son évangile. Pourquoi? Pour que nous autres, on puisse la lire et savoir quel était le contenu de sa prière. On va voir la prière de Jésus en deux parties. Et la première partie, c'est Jésus qui prie pour lui-même dans les versets 1 à 5. Et on va lire ces cinq premiers versets. Je ne le ferai pas toujours dans les autres parties, mais celle-là, je vais la lire. Après ces paroles, verset 1, Jean 17, Jésus leva les yeux vers le ciel et dit, « Père, l'heure est venue. Révèle la gloire de ton Fils, afin que ton Fils révèle ta gloire. Tu lui as donné pouvoir sur tout être humain, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. J'ai révélé ta gloire sur la terre. J'ai terminé ce que tu m'avais donné à faire. Maintenant, Père, révèle toi-même ma gloire auprès de toi en me donnant la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. » Eh bien, la première chose qu'il faut remarquer, c'est comment Jésus s'adresse à Dieu. J'ai pensé quand que je disais ça, on est dans Isaïe et je vous dis le nombre de fois que Isaïe fait référence à Dieu par l'expression le maître de l'univers. Mais Jésus aurait pu dire, c'est maître de l'univers. Il aurait pu dire créateur. Il aurait pu dire patron. Boss, il aurait pu dire voisin, il aurait pu dire mon frère. Certains de ces termes-là ne s'appliquent pas. Mais il n'a pas utilisé des termes que d'autres auteurs ont utilisés. Le terme qu'il a utilisé, c'est père. Père. Et quand Éric a prêché, je crois, il y a deux semaines, il a mentionné l'importance de la relation du Père. Et pendant qu'il prêchait, je dois vous dire que je ne me voyais pas comme étant celui qui avait accompli le rôle du Père parfaitement. Et il y en a qui pourraient le confirmer que je n'ai pas accompli ce rôle-là parfaitement. Par contre, j'ai réalisé dans ma réflexion que quand on s'adresse à quelqu'un, papa, dad, père, il y a des attentes qu'on a. Et moi, j'avais des attentes quand je m'adressais à mon père. J'avais l'attente qu'il m'écoute, qu'il s'intéresse à ce qui m'accablait, me préoccupait. J'avais des attentes qu'il désire me donner les meilleurs conseils sur les sujets qui étaient devant moi, jeune enfant, ado, jeune homme, jeune adulte. J'avais l'attente qu'il s'intéresse et qu'il puisse m'aider dans ma réflexion, dans mon cheminement. J'avais l'attente que mon père voulait mon bien, que mon père ne cherchait pas son intérêt, qu'il ne cherche pas à me prendre l'argent qui m'appartenait, à prendre l'intimité qui ne lui appartenait pas. Non, mon attente, c'est que mon père veuille mon bien. Et j'avais l'attente que mon père se sacrifie pour m'aider. Et j'ai construit une maison en 77. Ce n'était pas un bon temps pour construire une maison et s'attendre que ton père t'aide. Parce que mon père, c'était principalement un menuisier, je dirais. Pas de métier, mais construit une première maison en 52, peut-être, là. Une autre maison un peu plus tard, 53. Une autre maison en 67. Et pas mal par lui-même. Et ça, c'est ne pas mentionner toutes les maisons qu'il a aidé ses frères, ses beaux-frères à construire. Alors, en 77, quand j'ai construit ma première maison, il y a bien des choses que je ne connaissais pas. Il y a bien des choses que je n'avais pas faites. Puis en 77, au mois d'avril, mon père, eh bien, a été impliqué à construire la maison. Mon père avait le cancer du côlon. Et il y avait eu une première chirurgie, je crois en 76. Et quand il est venu chez moi, il était malade. Il est mort janvier 78. Il s'est sacrifié là. Il n'était pas en état pour venir m'aider, mais il est venu pareil. Et je réalise que quand je m'adresse à mon père, j'ai ces attentes-là. Je ne sais pas pour vous. Je sais. On a vécu des choses parfois avec notre Père terrestre qui est le contraire de ces attentes-là. Mais je vous assure que Dieu n'est pas comme cela. Dieu coïncide de beaucoup plus avec ce que moi je m'attendais de mon Père. Et je ne me suis pas trompé. Alors Jésus s'adresse à son Père. Père, l'heure est venue. Avant qu'il arrive au chapitre 17, il a mentionné l'heure n'est pas encore venue. Il a mentionné l'heure va venir bientôt. Au chapitre 17, il dit l'heure est arrivée là. Et ce qu'il voulait dire, c'est, les gars, dans quelques heures, pas quelques semaines, pas quelques jours, mais dans quelques heures, moi, je vais subir une mort atroce. Il leur disait cela. Alors, la situation est sérieuse. Il reconnaît que sa mission était aussi importante parce qu'il dit au verset 2, c'est pas minime la mission qu'elle avait. Tu lui as donné pouvoir sur tout être humain afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Donc, il dit, la fin approche et la mission est importante parce que de cela dépend la capacité que plusieurs soient réconciliés avec toi et aient la vie éternelle. Alors, quelque chose qui est important, c'est pas le seul endroit que Jésus va faire référence à Dieu comme étant son Père. Ça l'arrive, je vous dirais, là, plus de 100 fois. J'en ai compté 134 fois où Jésus s'adresse à Dieu comme étant son Père. Et certainement que ce terme-là fait référence à la complicité, à l'intimité. Et cette intimité-là, il l'a déjà décrit dans Jean chapitre 5, les versets 19 et la suite. Et je vais vous lire un peu comment il décrit cette relation-là. Jean chapitre 5, verset 19. Jésus reprit donc la parole et leur dit, « en vérité, je vous le dis, le Père ne peut rien faire de lui-même, sinon ce qu'il le Fils ne peut rien faire de lui-même, sinon ce qu'il voit le Père accomplir. Tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait parallèlement. En effet, le Père aime le Fils et lui montre tout ce que lui-même fait, et lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Toute une relation entre le Père et le Fils. Je vous dirais, ça dépasse la relation que mon Père et moi avaient, parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai faites que mon Père aurait dit, « Hey Gilles, c'est pas une chose que tu devrais faire. » Beaucoup de choses que mon Père faisait et que moi, je ne faisais pas. Mais ici, entre Jésus et Dieu, cette relation, elle est parfaite. Ensuite, dans ce même passage et dans bien d'autres, Jésus fait référence à ce thème d'être envoyé par son Père pour une mission. Tout au long de l'évangile de Jean, il va mentionner ce thème. En réalité, le sujet d'être envoyé, Matthieu le mentionne 3 fois. Marc le mentionne 1 fois. Luc le mentionne 4 fois, mais Jean le mentionnera plus de 50 fois. Et c'est clairement quand Jésus dit « Le Père m'a envoyé ». C'est pas quand le verbe « envoyer » est utilisé, parce que Jésus envoya des gens, ses disciples. Jésus, dans l'évangile de Jean, on voit que Dieu a envoyé Jean-Baptiste pour préparer le chemin. Non. Excluez tous ces moments-là où le terme d'être envoyé est utilisé. Et plus de 50 fois, on voit que l'apôtre Jean et Jésus lui-même, dans son discours, fait référence au fait d'être envoyé. Être envoyé, c'était important pour l'évangéliste Jean. Que ceux qui le liraient sachent que Jésus a été envoyé. Ce n'était pas pour son propre chef. J'étais chez moi hier, puis je réfléchissais, je calculais le nombre de fois, puis je partageais ça avec mon épouse. Puis elle me dit, ce à quoi ça me fait penser ça, tu Robert, il y a une utilité pour les épouses, là. Alors, elle me dit, ce à quoi ça me fait penser, c'est soumission. Jésus acceptait d'être envoyé. Et c'est vrai, on a des enfants pour certains, d'autres sont des enfants. Et si vous êtes un enfant et votre mère ou votre père vous dit, est-ce que tu pourrais aller chercher telle chose? La réponse n'est pas toujours avec joie. Je vais le faire tout de suite. Non, pas demain que je t'ai demandé d'aller faire quelque chose. Je te demande de le faire là, maintenant. Là. C'est maintenant qu'on a le besoin. Là. Combien de fois faut répéter cela, n'est-ce pas? Alors, si vous êtes quelqu'un à qui on demande, on vous envoie, ou le patron, ou notre épouse, ou notre conjoint, combien de fois est-ce qu'on est, comment on réagit? Mais là, c'est pas le temps, là. Je suis tenté de regarder, là, la meilleure portion de cette partie d'hockey-là, là. Mon joueur préféré, là, dans cette équipe de football qui est mon équipe, là, il est juste sur le point là, d'être impliqué dans un jeu. Là. Je ne peux pas faire ça maintenant. Là. Ce sont toutes des bonnes raisons pour ne pas aller, mais ce ne sont pas des exemples de soumission. Ce ne sont pas des exemples d'agir en réponse à ce qu'on nous demande de faire. Donc, ce thème qui est là, il est utilisé 6 fois. Dans Jean chapitre 17. 50 fois, plus de 50 fois dans l'évangile de Jean, mais dans sa prière, Jésus va l'utiliser 7 fois. Donc, ce n'est pas une petite chose pour lui, ce thème d'être envoyé. Et vous savez, non seulement Jésus est envoyé, mais il dira plus tard à ses apôtres, je vous envoie. Et je pourrais vous dire qu'il nous dit à nous, les croyants d'aujourd'hui, dans 2015, qui sont des croyants aujourd'hui, parce que d'autres ont été envoyés nous partager la parole avant nous. Et ça va jusqu'aux apôtres. Les apôtres ont été envoyés pour partager la parole. Ceux qui ont cru ont partagé la parole à d'autres qui ont suivi. Ça me faisait penser à 2 Timothée 2, 4, 2, 2, quand on parle de la formation d'ouvriers. Il dit, Timothée, identifie des hommes fidèles pour que ces hommes fidèles-là enseignent à d'autres. Il a fait référence à 4 générations, Paul, qui enseigne à Timothée. Timothée, qui regarde dans l'Église s'il y a des hommes fidèles et qui leur enseigne. Et ici, on voit Jésus envoie les apôtres. Mais les apôtres vont envoyer ceux qui vont croire. Et ceux qui vont croire vont envoyer d'autres. Et on arrive en 2016. Et ceux qui sont des croyants doivent aussi enseigner à partager à d'autres, n'est-ce pas? On a cette même mission. Donc, Jésus parle de cette relation avec Dieu, qui est une relation de père. Il parle de cette notion d'être envoyé pour accomplir un plan que le Père Céleste avait déterminé. Et cette mission, eh bien, il a mentionné au verset 2, d'accorder la vie éternelle à ceux que le Père lui avait donnés. Mais vous savez, en même temps, Dieu, le Père, a remis à Jésus la capacité de juger ceux qui ne croiraient pas. Donc, les gens peut-être refusent de reconnaître la suprématie de Jésus, refusent de reconnaître le plan de Jésus, mais qu'ils le reconnaissent ou non, ça ne change pas la réalité. N'est-ce pas? Car Dieu le Père a donné le pouvoir sur tout être humain. Et c'est Jésus qui accorde la vie éternelle. Et un peu comme on voit dans Jean chapitre 3, versets 36 et 37, « Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, Mais la colère de Dieu demeure sur lui. C'est Jésus lui-même qui nous le dit. Alors oui, il donne la vie éternelle, mais pour ceux qui ne croiront pas, eh bien, c'est la colère de Dieu qui sera sur eux. Alors, quelle est la requête dans ces cinq versets pour lui-même? Quelle est la requête de Jésus pour lui-même? Et il dit au verset 1, « Révèle la gloire de ton Fils, afin que ton Fils aussi révèle ta gloire. » Certainement que sa demande de révéler la gloire est reliée à l'accomplissement de la mission que Dieu lui a donnée. La mission de rédemption, de racheter ceux qui croiraient, de payer le prix pour les péchés de l'humanité. Certainement. Mais en même temps, le verset 2 nous mentionne que Dieu le Père lui a remis toute autorité sur les êtres humains. Alors, révéler la gloire de ton Fils, c'est aussi démontrer la puissance qu'il a pour le jugement. Aussi, sa demande sûrement inclut d'être capable d'endurer, d'être capable de soutenir la souffrance qui est devant lui dans quelques heures, d'accepter son sacrifice pleinement. Et sûrement, sa demande inclut que le Père le ressuscite et lui restaure la gloire qu'il avait avant la fondation du monde. C'est ce qu'il dit au verset 5, n'est-ce pas? Maintenant, Père, révèle toi-même ma gloire auprès de toi en me donnant la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. Il demande au Père de le soutenir dans les dernières heures de sa vie afin qu'il puisse aller jusqu'au bout, n'est-ce pas? Et qu'après, le Père le ressuscite et l'amène auprès de lui où il est assis aujourd'hui. Eh bien, ce n'est pas quelque chose qui était difficile pour lui, comme on a vu dans la prière de Jésus au Gethsemane. Il aurait bien, humainement parlant, voulu éviter cela, mais par-dessus tout, il voulait faire la volonté de son Père. Pendant son ministère sur terre, Jésus aussi a glorifié le Père. Et Hébreux chapitre 1, les versets 2 à 3, nous dit que quand Jésus était sur la terre, ses paroles, ses actions reflétaient qui Dieu est. Alors, personne n'a vu Dieu, mais la présence de Jésus sur cette terre a été le moyen pour que les êtres humains puissent voir la sagesse, la bonté, la justice de Dieu, parce que Jésus révélait exactement le caractère de Dieu pendant qu'il était ici sur cette terre. Si le Père glorifie le Fils glorifie le Père, certainement, mais si vous allez dans la prière au verset 10, on voit que même tous croyants sont appelés à glorifier Dieu par leur vie. Nous avons une part, même je vous dirais que c'est notre objectif principal pour le croyant, c'est pas d'acquérir des connaissances, c'est pas d'être un orateur plus grand du monde, mais c'est de glorifier Dieu par-dessus tout. Et il y a plusieurs versets qu'il mentionne. Un, que je vous encourage à apprendre par cœur, c'est 1 Corinthiens 10, 31. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Et certainement, Jésus demande au Père de le glorifier et dit que lui-même a glorifié le Père par son ministère sur terre. Mais il extensionne cela et nous rappelle dans sa prière que nous, on doit glorifier le Fils. Ça nous amène à la deuxième partie la deuxième partie de la prière de Jésus et dans les versets 6 à 26, on voit cette partie-là. Je l'ai divisée en deux. Il y a les requêtes que Jésus a pour ses apôtres directement. Ensuite, il y a les requêtes que Jésus a pour ceux qui croiront, parce que les apôtres leur ont partagé la parole. Et on voit ça dans Jean 17, les versets 20 et la suite. Mais dans les versets 6 à 10, Jésus nous parle un peu des caractéristiques de ses apôtres. Qui sont ces gens-là? Et voici ce qu'il nous dit. Ceux que tu m'as donnés. Donc, un premier élément qu'il va dire, une première caractéristique, c'est que ce sont ceux que tu m'as donnés. Il y a un travail que Dieu a accompli. Ailleurs, il va dire, ils ont cru. Dieu accomplit un travail, mais ils ont cru aussi. Mais ce sont des gens que Dieu le Père a intervenu, qui lui appartenait et qui les a donnés au Fils. On voit ça au verset 2, 6, 7, 8, 9 et 12. Dieu qui lui a donné les apôtres. Ce sont des gens qui faisaient partie du monde, qui étaient en rébellion contre Dieu, mais que Dieu a sorti du monde. Ils ont sorti de la domination de Satan. Parce que moi, je suis une personne, je vis encore dans ce monde. Est-ce que je vis sous le règne de Satan? Est-ce que je me soumets à lui? Est-ce que je fonctionne comme lui? Ou bien, est-ce que je suis comme un étranger sur cette terre, vivant selon les règles de notre Sauveur? Alors, les apôtres étaient du monde, mais Dieu les a sortis du monde pour les donner à Jésus comme étant des apôtres. Ce sont des gens, selon le verset 6 et 8, qui ont reçu la parole de Jésus quand ils étaient sur terre, mais qui l'ont gardée aussi. C'est une chose de recevoir, mais la garder, ça va un petit peu plus loin. Une autre caractéristique dans le verset 8, ils ont reconnu que je suis sorti de toi et ont cru que tu m'as envoyé. Alors, ça, c'est-tu des bouteilles qu'on prend quand on est dans la construction, là? Hein? Alors, ils ont cru. Ils ont cru que c'est Dieu qui l'avait envoyé. C'est un élément de tout disciple de Jésus-Christ et des apôtres. Quelqu'un qui ne croit pas cela ne peut pas dire qu'il est un disciple de Jésus-Christ. Le verset 10, le verset 9, ils ne sont plus dans le monde, comme j'ai mentionné. Ils ont été pris du monde, sortis du monde. Ils sont encore physiquement présents, on va le voir au verset 20. Mais ils ne font plus partie du royaume de Satan. Au lieu, verset 10, ils sont au Père et au Fils. Et la gloire de Jésus est manifestée en eux. Imaginez-vous, Jésus a manifesté la gloire de Dieu le Père, a reflété le caractère de Dieu le Père, a reflété qui il était. Jésus a fait cela. Mais le disciple doit manifester la gloire de Jésus-Christ par sa vie. Donc, sa façon de vivre, son caractère, ses valeurs, ses priorités doit refléter ce que c'était pour Jésus lui-même. Et vous connaissez le passage 1 Pierre 3,15 où l'apôtre Pierre dit, quand les gens vont voir l'espérance, vont vous voir vivre, ils vont vouloir vous poser des questions, à savoir, pourquoi vous avez cette espérance-là? Et pourquoi? Parce qu'ils vont vivre comme Jésus-Christ vivait sur cette terre. Parce qu'ils vont faire comme ce verset mentionne, ce verset 10. Ils vont voir la gloire de Jésus-Christ dans ta vie. Et ça va les amener à se questionner. Et il mentionne dans ces passages-là que lui part, mais que ses disciples vont rester. Et ça, c'est la raison pourquoi Jésus prie pour eux. Il ne sera pas là pour accomplir ce qu'il a besoin d'être accompli pour les apôtres. Alors, il implore Dieu de le faire. Je vais... Il y a ces trois éléments-là qu'on a vus. Puis ensuite, il y a les requêtes que le Seigneur a faites. Alors, il y a de les garder en son nom. Les garder en son nom. Que ses disciples soient pleinement fidèles. Qu'il ait une pleine ressemblance au caractère de Dieu. Est-ce que c'est une requête qui est nécessaire? Eh bien, quand je regarde dans ma vie, quand je regarde comment, même si le Seigneur a enlevé des grosses roches, comme M. Alexandre disait, mon ami qui en a un paquet de petites roches. Et je vous dirais, c'est même pas du trois quarts propre. Je pense que c'est du zéro trois quarts. Du trois quarts propre, il n'y a pas des petites pécadilles qui restent là. Et dans ma vie, c'est du zéro trois quarts. Et j'ai besoin que la grâce de Dieu, j'ai besoin de son action dans ma vie pour refléter le caractère de Dieu. Et Dieu, Jésus le sait cela. Il a vu ses disciples. Il a vu ceux qui étaient colériques. Il a vu ceux qui étaient ambitieux et qui voulaient être à la droite et à la gauche quand il sera plus dans son royaume. Il a vu cela. Il les a vus, comme M. Alexandre a mentionné, ne pas vouloir laver les pieds des autres. Trop orgueilleux pour que le Seigneur même accomplisse la tâche. Et Jésus dit, Père, garde-les par ta puissance. Garde-les fidèles. Quand il était là, certainement, Jésus devait les reprendre afin qu'ils demeurent comme cela. Ensuite, il leur dit, au verset 13, Père, donne-leur la joie que moi j'avais, une joie parfaite. Et faisant référence peut-être au passage dans Jean 15, verset 9, et la suite, tout comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour, si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela afin que ma joie demeure en vous, que votre joie soit complète. Donc, quand il demande au Père que les apôtres aient une joie complète, il demande au Père qu'il soit pleinement obéissant, rempli de son amour. Alors, même chose, il nous demande quelque chose qu'on doit considérer important. Une troisième requête, qu'il soit préservé du mal ou du malin. Et je vous dirais qu'il y a certaines versions qui parlent du mal, d'autres qui parlent de Satan, du diable. Et je vais prendre... la compréhension d'être préservé du malin, de Satan, du diable, qui continue à agir comme si Jésus-Christ n'avait pas eu la victoire à la croix. Vous savez, l'un de mes fils, Matthieu, lisait l'histoire de la Deuxième Grande Guerre. Et entre le temps que Hitler s'est enlevé la vie et que la guerre a pris fin, et le temps que la plupart des gens savaient qu'ils allaient perdre la guerre, il y a eu pas mal de temps. Et Satan, même s'il a été témoin de la victoire de Jésus-Christ à la croix, agit aujourd'hui, en ce moment, comme si cette victoire-là n'a pas eu lieu. Il va y avoir un jour, il va y avoir une bataille finale. Et Satan ne sera plus trouble fête. Mais aujourd'hui, on a besoin que Dieu le Père nous garde de Satan. 1 Pierre, chapitre 5, les versets 7 à 9. Pierre sait cela. Et il dit à ceux à qui il s'adresse, « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. » Jésus sait que Satan va tout faire pour achoper son œuvre, pour tout faire pour nous faire tomber et croire qu'il est impossible de revenir une fois qu'on est tombé. Il va tout faire. Et aujourd'hui, je vous dirais, la menace la plus sérieuse que je vois, c'est la même menace qui existait au début de l'Église. Et c'est que le croyant élève sa sagesse humaine au-dessus de la sagesse de Dieu et fasse fi de l'enseignement qui nous a été laissé dans sa parole. Il est facile de négliger l'étude de la parole, de négliger les enseignements et de commencer à questionner sur toutes sortes de points de doctrine essentiels. Et dès le début de l'Église, déjà dans les premiers centenaire, il y avait des gens qui niaient la divinité de Jésus-Christ. Mais il y en a en 2016 qui niaient des points essentiels, même l'existence de Satan. Et je vous dirais que ça, c'est la menace la plus grande. Satan est en train d'utiliser tous les moyens pour discréditer et mettre la semence même dans le cœur du croyant que la parole est secondaire, que la sagesse humaine, que ma capacité de réfléchir dépasse la sagesse de Dieu. Mais ce n'est pas le cas dans sa parole. Il y a un grand danger dans 1 Timothée, dans 2 Timothée, dans Tite, dans 2 Pierre. Combien d'avertissements est-ce que l'apôtre Paul donne sur les philosophies qui vont s'introduire et qui vont nous éloigner de la parole. Des choses qui sont des fables. 2 Pierre 1, verset 16. « Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues. » Des choses qu'on va nous dire, que Satan va semer, ce ne sont pas des choses qui sont évidente à dire, c'est faux. Non, ce sont des choses qui sont habilement conçues. Et que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Des gens dans 2 Pierre disaient, voyez tout l'enseignement, c'est faux. Tout ce qu'ils ont vu, regardez, le Seigneur n'est pas revenu encore. Tout ce qu'ils ont dit, c'est des fables. C'est pas vrai. Et Pierre leur dit, non, c'est vrai. Ces choses-là, ils l'ont fait connaître. Et le Seigneur va revenir. Ensuite, sa requête, c'est qu'il soit consacré pour le service, pour la mission. La mission des apôtres était semblable à celle du Seigneur, sauf de payer le prix à la croix. Mais il devait partager la parole afin que les gens croient. Et ceux qui croient ont la même mission que ceux qui ont annoncé la parole. Mais comment facile est-ce de négliger ça? Et Jésus le sait. Et il demande à son Père que les apôtres et que les croyants soient dédiés, consacrés pour le ministère, pour le service. vous parle pas d'un ministère à temps plein. Je vous parle du ministère de la parole envers les non-croyants, envers les jeunes croyants. Et Jésus est préoccupé par cela. Au verset 20 de chapitre 17, Jésus dit, « Je ne prie pas pour les apôtres seulement, mais encore pour ceux qui croiront en moi à travers la parole, afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi. » La requête de Jésus, c'est qu'il soit un. Et comment perspicace il était, si on fait juste regarder à travers l'histoire de l'Église. Vous dites, mais je ne connais pas l'histoire de l'Église. Eh bien, il y a eu schisme, division, conflit. Mais regardons même ici, dans l'Église, comment facile c'est d'arrêter de s'impliquer dans un ministère parce que quelqu'un a dit une parole. Comment c'est facile de dire, bien moi, j'arrête de donner mon offrande à l'Église parce que il y a une décision là avec laquelle j'étais pas d'accord. Alors moi, j'arrête de donner mon offrande. Comment c'est facile de dire, bien, le frère ne croit pas la même chose sur un point de doctrine qui est secondaire. Alors moi, je peux plus aller à l'Église et je me retire. Et le Seigneur savait cela. Il demande à son Père qu'on puisse être consacré au ministère, qu'on puisse passer par-dessus et qu'on puisse servir ensemble. Je vous dirais, il y a un passage, Philippiens 3, 15 à 16, qui nous exhorte à cela. Nous tous donc qui sommes mûrs, adoptons cette attitude. Et si vous êtes d'un autre avis sur un point, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement, là où nous en sommes, on est ici, là, au mois d'août 2016. Oui, il y a des points là sur lesquels on n'est pas d'accord. Mais, les frères, seulement là où nous en sommes, qu'est-ce qu'il doit faire? Marchons dans la même direction. Et vivons en plein accord. Il y a toutes sortes de raisons pour que on travaille pas ensemble. Donc, qu'on ait les yeux sur la mission que Dieu nous a donnée. Et les points secondaires, reconnaissons-le. Un jour, ça va nous être éclairé. Combien de fois j'ai utilisé ce verset-là pour agacer surtout mes deux fils. Quand ils n'étaient pas d'accord sur un certain élément, je disais, bien, faites-vous-en pas un jour, quand vous allez devenir plus sage, vous allez avoir la même opinion que moi. Mais c'était mal interprété le verset qui est ici. Le verset, c'est même si on n'est pas d'accord à 100%, c'est des points qui touchent, qui viennent t'agacer, que cela ne t'empêche pas d'accomplir la mission. Marchons ensemble. Et finalement, la dernière requête, c'est « Seigneur, ramène-les à moi, qu'ils puissent être avec moi. » Ça me fait penser à 1 Pierre, chapitre 1, 3, 5, où on nous parle de l'héritage que nous avons, de l'espérance vivante qui est là. Là, les frères, on est déjà passé le temps, mais que cette prière de Jésus nous rappelle un qui il est. Quelle est sa prière pour nous? Et ce sont les éléments qui sont les plus importants pour l'avancement de son œuvre. Qu'on soit gardé fidèle, qu'on ait une joie de servir, malgré les circonstances, qu'on soit préservé des trucs de Satan, qu'on soit préparé, équipé, zélé pour l'accomplissement de sa mission, qu'on soit unis ensemble, marchant de commun accord pour l'accomplissement de son œuvre, et qu'on ait cette espérance vivante qui est là, qui nous permet de garder la joie malgré tout. Prions. Seigneur Dieu, merci pour ce passage que tu nous as laissé. Merci pour cette parole qui est extrêmement essentiel d'étudier, de scruter, afin d'être gardé de philosophie, de réflexion humaine, et de l'orgueil de mon cœur qui me dit, « Hey, je suis pas mal bon, je pense que tel élément est erroné. C'est ma pensée qui est mieux. Seigneur, garde-moi de cela. » Merci, Seigneur, pour ton assemblée. Garde-nous, dirige-la, qu'on puisse élever ton nom par-dessus tout. Amen.